Donc, nous sommes aujourd'hui le 13 Elul, c'est le Yortzaret, l'anniversaire du décès d'un des plus grands rabbins des deux derniers siècles, des rabbins Sfarad, qu'on appelle le Ben Ishraï. Ce n'est pas son vrai nom c'est Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad. Il est donc né à Bagdad, c'était une sommité énorme dans le monde moyen-oriental à l'époque. D'ailleurs, son nom c'est Rabbeinu Yosef Chaim, c'est-à-dire on s'en prend les rachetés votes, les premières lettres de son nom, Rabbeinu Resh, Yosef Yud, Chaim, Chet, ça fait le mot Re'acher, c'est l'odeur. Dans les livres, on l'appelle Re'achtov, la bonne odeur de Bagdad. Il est né en 1832, donc ça fait pas mal de temps. Et il était très beau, qu'on voit sur les images, on a les images du Ben Ishraï avec le turban. D'ailleurs, il explique d'ailleurs dans son livre comment on fait ça. Il y avait des aspects lechatiques. Alors il portait une sorte de petit bonnet sur la tête, et après le bandeau, il le mettait comme ça, je crois qu'il faisait 25 mètres de long, si je me souviens bien. 25 mètres de long comme ça, de bandeau qu'il mettait pour avoir le gros turban sur la tête. Et bon, c'est le fils aîné de la famille. Il est venu très difficilement. Sa mère était stérile. Après 10 ans où une femme est stérile, ça devient inquiétant. Alors, son père lui a dit, pars au Maroc. Depuis l'Irak, à l'époque, au Maroc. Et pas le Maroc, Gaza ou Tanger, des villes comme ça, connues, côtières. Va au fin fond du sud du Maroc, voir Abir Yaakov. C'est qui Abir Yaakov? Rabbi Yaakov Abou Hatzera, le grand-père de Baba Salé. Tu vas prendre une bracha. C'est là où se rejoignent le Maroc et l'Irak. C'est deux conceptions totalement différentes de la Torah et des grandes Torahs, mais en fait, ils sont reliés. Que donc la mère de du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, a reçu une bracha de Rabbi Yaakov Bouchatzera, et quelques mois suivants, elle rentre à Bagdad, et elle est tombée enceinte, et est née Rabbi Yosef Chaim. C'est d'ailleurs pour cela que, bien que les Marocains ne connaissent pas le Ben Ishraï, parce que c'était l'Irak, et les Marocains ont leur poskim, leur grand décisionnaire à eux, dans la famille Abou Hatzera, il y a une coutume. On fait l'Halakha comme Ben Ishraï. À part les endroits clairs où Rabbi Yaakov Abou Hatzera a dit de faire autrement, mais on fait comme le Ben Ishraï. Il y a une grande machloket connue au niveau de la Kabbalah entre la famille Abou Hatzera et le Ben Ishraï. Ben Ishraï, on peut dire, c'est le grand maître de Kabbalah, comme on va le voir, des derniers siècles. Tous les grands kabbalistes aujourd'hui, en tout cas Sfarad, d'accord, on ne connaît que les grands kabbalistes Sfarad. Tous les grands kabbalistes Sfarad, sur le Rav Kadouri, moins connu, mais aussi grand, si pas plus grand, le Rav Mordechai Sasson, qui était plus grand, Ben Rav Ben Shonmali, il était plus grand. Toute l'école de Kabbalah, le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, le père du Rav Mordechai Eliyahu, qui a lui-même étudié chez le Ben Ishraï, Rav Shimon Agassi, celui qui a fait un grand commentaire sur Shara Gilgulim, dans les écrits de Kabbalah, il y a le portail, un des 8 portails. Rabbeinu Ari, ses écrits, il y a 8 portails. Un des portails, c'est le portail des réincarnations. Et il y a un commentaire là-dessus de l'élève, ami élève du Ben Ishraï, Rabbi Shimon Agassi. On peut dire que toute la Kabbalah moderne qu'on a aujourd'hui, c'est Ben Ishraï. Ben Ishraï, c'est le grand maître de Kabbalah au niveau de la lacha aussi, on va voir, qui c'est la lacha au niveau du pshat, du sens simple, elle est extrêmement influencée par la Kabbalah. Donc, le Ben Ishraï est né chez son père Eliyahu. J'ai commencé à dire qu'il y avait une grande marloque au niveau de la Kabbalah entre la Kabbalah, on va dire, d'ici et celle du Maroc, au niveau de la barbe. Au niveau de la barbe, on fera un cours avec l'aide de Dieu bientôt là-dessus. Comment on peut se raser, comment on peut ne pas se raser, ça c'est au niveau du pshat. En deux mots, je vous mets déjà au parfum. À la lame, c'est clair que c'est interdit. À la machine, c'est clair que c'est interdit. Il reste la tondeuse de certaines façons et certaines tondeuses. Et la crème dépilatoire aussi de certaines façons. Oui, je c'est la même chose, je ferai un cours là-dessus, c'est vraiment entre parenthèses. En passant, je vous mets au parfum, comme je l'ai dit, je ferai un cours bien, parce qu'effectivement, c'est un grand problème. Un grand problème. Ça, c'est la première sens simple. La Kabbalah vient et dit, Rabbeinu Ari, il écrit, que chaque cheveu qu'il y a dans tout le corps correspond à un tuyau de chesed, de bienveillance divine qui vient sur nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas enlever les cheveux. On ne va pas enlever un cheveu ou un poil. Le Ben Ishraï, dans le Ben Ishraï, a fait un shoot, un livre de responsa, quatre tomes, qui s'appelle Rav Pehalim. Mais à la fin de chacun des tomes, il fait un petit shoot de Kabbalah. Question-réponse de Kabbalah. Passionnant. Ce qu'on peut comprendre, c'est passionnant. Des tas de questions intéressantes. Par exemple, la première là-bas, elle commence, est-ce qu'on peut dire Birkot HaShachar dès après minuit? Birkot HaShachar, c'est les bénédictions du matin qu'on fait. Non, on ne le fait que le matin. Lui vient et dit non, puis Kabbalah, dès que minuit est passé, aujourd'hui ici c'est une heure moins un quart, tu peux faire déjà tout Birkot HaShachar, à part Birkat HaTorah. Si tu n'as pas dormi, tu ne peux pas faire Birkat HaTorah. Tu peux faire tout Birkot HaShachar. Tu dis qu'il donne l'intelligence au coq, faire la différence entre la nuit et le jour, Malbich Aromim, qui habille les nus, qui lève les qui redresse les courbes, etc. Toutes les brochottes. Alors qu'on est encore en pleine nuit, tu vas se endormir après. Ou tu as déjà dormi un peu avant. Et par cela, hein, si tu vas dormir après, quand tu vas dormir, tu ne goûtes pas au goût de la mort. Quand quelqu'un, il faut faire trois choses. Celui qui est après minuit, il fait Tikkun Ratzot. Et tu dis, une petite heure. C'est pas clair ce que c'est ces petites heures d'études de Torah. Et il fait Birkot HaShachar, quand il dort la nuit, c'est comme s'il dort le jour. Quand on dort la nuit, on reçoit un 1/60 de la mort. C'est pour ça qu'on se lève, on a sur soi un esprit impur, il faut se laver les mains. C'est un esprit impur. Une des raisons, plusieurs raisons qui font qu'on se lave les mains le matin, une des raisons, c'est aussi qu'on a un esprit impur, parce que la nuit, ton âme quitte ton corps, le corps est sans la sainteté de ton âme. Qu'est-ce qui rentre quand il n'y a pas de sainteté? Il rentre la Touma, rentre les forces impures. Maintenant, quand tu te lèves le matin, l'âme revient, les forces impures, elles vont où? Elles partent au bout de tes doigts et au bout de tes pieds. Quand tu fais une tatadaim, tu les enlèves de tes mains. Pour enlever, il faut faire 6 fois, si possible 8 fois. Le Gan de Vilna dit qu'il faut faire 8 fois. Tu ne perds rien, rajoute 1 fois, 10 blinader, parce que d'après la halakha, c'est 6 fois. Celle des pieds, on ne peut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite et on n'a pas la capacité aujourd'hui d'enlever l'impureté des pieds. Parce que vu que la terre a été maudite lors du péché originel, alors il y a une achiza, il y a encore les forces du mal réussissent à rester dans les pieds, on ne peut pas l'enlever. Le seul endroit où on pouvait, et on devait faire netilat, yadaim et raglaim, la netilat des pieds, des mains et des pieds, et on le faisait ensemble, c'est les kohanim au temple. Kohanim au temple, avant de faire le service sacerdotal, ils attrapaient le pied comme ça avec la main, et hop, se versaient les deux à la fois, hop, comme ça, après la main gauche, tenez le pied comme ça, et verser comme ça, de se tenir sur un pied comme ça, à faire un peu d'équilibre. Parce qu'au temple, c'est sain, on pouvait faire un tila aussi des pieds. Donc, par exemple, ce sont quelques questions-réponses qu'il écrit dans son shoot. Donc, je dis Rav Pehalim, à la fin, il y a Sod Echarim, le secret des hommes justes, des hommes droits. Là-bas, il y a des questions-réponses de Kabbalah. Ce qu'on peut comprendre, c'est extrêmement intéressant. Une autre question, quelqu'un m'a posé la question dernièrement sur Internet. 2 personnes m'ont posé la question. Comment se fait-il que Shabbat, c'est une certaine réalité divine. Comment se fait-il que le Shabbat, il change au Japon, en Australie et en Amérique? Si maintenant, c'est Shabbat et c'est le jour de repos de Dieu quelque part, et que nous, en fonction du jour de repos de Dieu, on se met aussi en situation de Shabbat, alors c'est pas possible que le Shabbat, il commence au Japon environ 10h, enfin 8h avant nous, et finit aux États-Unis 8h après nous. Alors c'est quand le vrai Shabbat? C'est pas non plus que ce soit d'après la terre d'Israël, parce que c'est le cas, les Japonais, Juifs japonais, Juifs américains devraient être d'après la terre d'Israël. Là, il donne une réponse aussi, comme une arborescence qui rentre depuis le temps, dans le non-temps. Bon, des choses qui sont très intéressantes. Là-bas, en tout cas, il a écrit, le Ben Ishraï, une tshuva, une réponse, comme quoi il n'y a aucun problème pour la Kabbalah de se couper les cheveux. Cette réponse a été ôtée du livre. Le livre que j'ai chez moi à la maison, Rav Pehalim, du Ben Ishraï, cette tshuva n'existe pas. Et Rav Ben Sulam Bachoul, il y a une 20aine d'années, il hurle, les éditeurs, ce sont des menteurs, des voleurs, ils n'ont pas le droit de faire une chose pareille. Parce qu'il semblerait que les éditeurs étaient plutôt de l'école qui disaient qu'il fallait laisser les cheveux pousser ad aeternam, sans cesse, et ils ont enlevé cette tshuva. Baruch HaShem, dernièrement, là ici, vous voyez, tout en haut, il y a ici 4 bouquins blancs, c'est ça, Rav Pehalim. Là-bas, c'est dans le volume 4, tshuva 5, une petite tshuva très, très, très simple du Ben Ishraï, sur la base d'écrit du Hari, qui dit que tout ce qu'il explique là-bas, que ce que le Rabbeinu Hari interdit, c'est quand on déracine le cheveu. Mais tant que le cheveu, il est là, bien qu'il ait été coupé, c'est coupé de façon cachère. Donc, il ne faut pas qu'il soit à ras la peau, pour ça que les machines à raser et les rasoirs, c'est interdit, et tondeuse, de certaines façons, c'est interdit aussi. Mais tant qu'il y a encore un peu de cheveux, il n'y a aucun problème. C'est pas que nous verrons que tous les grands kabbalistes, Sfarad, des derniers temps, ils avaient, le Rav Kadour avait une longue barbe, mais tu prends le Rav Sasson Mizrahi, qui était le plus grand kabbaliste de la génération passée, il est décédé il y a 10 ans environ. Super, hyper, complètement inconnu, à part dans les milieux branchés, d'accord. Elle avait une petite barbiche, plus petite que la mienne. Rabbi Sanaba Shaoul, vous allez le trouver beaucoup d'après la Kabbalah, tu prends des photos de lui quand il avait 30-40 ans, l'Avdi, il n'a pas touché son cabot, on dirait Al Capone, d'accord. Il avait le chapeau borsalino, rasé comme ça, mal rasé, d'accord. Hamovadia, tu prends, rasé très très, ils étaient tous très rasés, très proches. Et si d'après la Kabbalah, il faut avoir une longue barbe, je ne comprends pas. Réponse, non. Le Ben Ishraï, qui est là, le plus grand Kabbalah, peut-être des 2-3 derniers siècles, dit sans problème, on peut se couper la barbe. La maison Abou Hatzera, toute la dynastie Abou Hatzera depuis Rabbi Yaakov, dit non. Il faut laisser les cheveux pousser sans cesse. Donc, celui qui peut faire comme ça, Tawa la Bracha. Celui qui ne peut pas, il a une grande barbe, c'est vrai. Le Ben Ishraï a une grande barbe, mais il semblerait qu'il a coupé. Il a coupé quand même. Donc le Ben Ishraï, c'était un grand maître de Kabbalah. Il, à l'âge de 7 ans, il est tombé dans un puits. Il jouait avec sa sœur, et hop, il est tombé dans un puits. Il a commencé à se noyer, il a failli se noyer, il était complètement inconscient. Et il s'est réveillé, Baruch HaShem, et à ce moment, il a fait le neder, il a fait le vœu qu'il s'adonnerait toute sa vie à l'étude de la Torah. Et de ce jour, il s'est mis à étudier comme une bombe. Des gens ont dit que c'était un Gilgul, une réincarnation, enfin une partie de l'âme de Yosef HaTzadik. Il s'appelait Yosef Chaim. Il était beau comme Yosef, dit-on. Et Yosef a été jeté dans le trou, lui aussi est tombé dans un trou. Donc il y a des gens qui ont voulu faire un parallèle entre les choses. Il a commencé à étudier la Torah. À l'âge de 18 ans, il s'est mis à étudier. Non, à l'âge de 15 ans, il s'est mis à étudier avec son rave, le rave Abdallah Somer. Abdallah, c'est Ovadia. Ovadia en arabe, c'est Abdallah Somer, qui était l'élève de son grand-père, le grand sage de Babylone, dont on a ici les écrits. C'est Zifred Sedek, on l'a aussi ici dans la première, voilà. Zifred Sedek, du Rav Abdallah Somer, un grand possèque oriental. Et Rav Abdallah Somer, à l'âge de 18 ans, quand Ben Ishraï avait 18 ans, a décidé qu'il allait le marier à sa sœur. La petite sœur du Rav Abdallah Somer est venue la femme du Ben Ishraï. Tu as une question?
C'est un peu de la Kabbalah, quelqu'un qui ne voit encore tout à Kalafra, qui commence à faire les choses un peu de la Kabbalah, c'est la barbe, etc. Je ne connais pas encore tout, je suis pas d'arbre.
Alors, ta question est, est-ce que c'est pas un peu poussé, un peu un signe d'orgueil, quelqu'un qui commence à faire d'après la Kabbalah, hein, alors qu'il ne fait pas encore les choses d'après le sens simple? Très bien. Ben, ça tombe très bien, parce que c'est à peu près ça, hein, la grande chose que va ramener le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, son livre qu'il a fait, qui a révolutionné le... Bon, je vais te raconter l'histoire après j'arrive à ton point. À l'âge de 26 ans, le père de Ben Ishraï est décédé, et le Ben Ishraï a pris sa place, pas en tant que rave de la ville, il n'a jamais eu le rôle de rave de la ville, mais celui qui faisait la dracha, la synagogue, le Shabbat. Et il a fait une dracha, les gens étaient captivés, 1000 personnes venaient écouter sa dracha, il parlait pendant quelques bonnes heures, chaque Shabbat. 4 Shabbats par année, c'est les Shabbats des grandes fêtes, il parlait 6 heures de suite, à l'époque il n'y avait pas les microphones comme ici, d'accord, il avait une voix de... Rav Kadouri, il se souvient lui-même encore quand il était petit, il allait à la dracha du Ben Ishraï, et il est venu à un des grands poskim de la génération, alors que son père était encore vivant, répondait à des responsables. Une fois, il a reçu une lettre de Rabbanim, son père a reçu une lettre de Rabbanim pour une question. Il l'a vu, il s'est mis sans dire à son père, c'est lui-même qui a répondu, il a renvoyé la lettre, d'accord. Et les Rabbanim ont vu que c'est pas le père qui a envoyé la réponse, c'est le fils, mais ils ont vu qu'il répondait mieux que le père, c'était extra, enfin, aussi bien que le père, donc ils ont renvoyé au père, Baruch HaShem, que... Le père peut déjà voir qu'il a un fils qui le suit dans sa voie. Donc il est devenu un très très, très grand possèque. Quel est... Bon, on peut dire qu'il a révolutionné le monde moyen-oriental, on va dire, depuis la Tunisie en gros, j'imagine à peu près là la limite, en tout cas la Libye, l'Égypte, toute la région aussi d'Israël, le Liban, l'Irak, la Syrie, jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde, il a beaucoup de tchouvas, de questions qui viennent de Calcutta, de Bombay, etc. Le maître incontesté, c'était le Ben Ishraï. Sa spécialité... c'est que, dans son livre Ben Ishraï, on le voit très très bien, c'est de mettre au niveau de l'Halakha tout ce que dit la Kabbalah. Pour le Ben Ishraï, quand Rabbeinu Ari a dit une chose, on ne discute pas. c'est halakha. Plus que cela, on a des lois en halakha. Par exemple, on a une loi qui dit « safek brachot le'akel ». Quelqu'un, il y a une question, est-ce qu'on va faire la bracha, oui ou non? Si tous les poskim, tous les décisionnaires, pas des rishonim, les décisionnaires du Moyen-Âge, disent qu'on doit faire la bracha, il y en a un qui dit « non, dans ce cas, on ne fait pas la bracha, on ne fait pas la bracha ». Pourquoi? Parce qu'une bracha en vain, c'est transgresser le troisième des 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quand tu fais une bracha pour rien, tu prononces le nom de Dieu en vain, c'est le troisième des 10 commandements, c'est extrêmement grave. On dit que la terre, elle a tremblé lorsque ce commandement a été dit. Donc c'est extrêmement grave, c'est comme jurer en vain. Jurer en disant un mensonge, c'est très grave. Toutes les brachot, à part Birkat Hamazon, ce sont des brachot qui sont des rabbanan. C'est un décret des rabbins. C'est pas marqué dans la Torah qu'il faut faire la bracha. À part Birkat Hamazon, c'est marqué, Khalta, tu mangeras avec Savat, tu seras rassasié, ou Berachta, tu feras la bracha. Et la bracha du Birkat Hamazon n'est valable de la Torah, n'est mise à la Torah que si on est rassasié. Si quelqu'un n'est pas rassasié, il doit quand même faire Birkat Hamazon s'il a mangé du pain, c'est une loi des rabbanan. Si on a mangé kazaï de pain, on doit faire Birkat Hamazon, même si on n'est pas rassasié. Mais si on est rassasié, on fait la mitzvah de la Torah. Dans ces cas-là, Birkat Hamazon, si on a safek, on fera la bracha, parce que c'est de la Torah. Mais tous les autres brachot, ce sont des brachot qui sont des rabbanan. Donc si on a un safek, pourquoi rentrer dans le danger de transgresser le troisième des commandements tellement grave pour une loi qui est que des rabbanan? Que des rabbanan. Donc si on a un doute en brachot, on ne fait pas. Ça, c'est une loi, on appelle ça safek, brachot, laquelle? Sabal, on appelle ça en racheté vote. Safek, brachot, laquelle? Sabal. Bien, Ben Yishra, il dit oui. Mais si tous les poskim au monde disent qu'on ne fait pas la bracha, et Rabbeinu Ha'ari dit qu'on fait la bracha, on fait la bracha. Pourquoi? Rabbeinu Ha'ari, il a reçu des lois à Navi. Les décisionnaires, ils ont fait d'après ce qu'ils voyaient. La Torah, ok, tic, tac, tac, leur esprit, la Torah, très bien. Mais ce n'est pas Eloi Navi. Eloi Navi, il est dans le ciel. Il vient, c'est lui qui a enseigné Rabbeinu Ha'ari. Si Rabbeinu Ha'ari a dit une chose, personne ne discute. Tous les poskim peuvent dire contre. Rabbeinu Ha'ari a dit, on fait. Ça, c'est le Ben Yishraï. Attention, tu as une question là-dessus? Oui.
D'où on sait qu'il
est avec Eloi Navi? Ok. Tu as dit deux choses. Tu as dit, qui me dit maintenant que Rabbeinu Ha'ari avait un Gilou Eliaou? Deuxièmement, même s'il a un Gilou Eliaou, la Torah n'est pas dans le ciel. Pour la première question, il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Ha'ari, d'après les nombreux témoignages, d'abord, une connaissance d'une Torah qu'il ne pouvait pas avoir trouvée par lui-même. Il y a eu un dévoilement. La Torah de Rabbeinu Ha'ari, c'est des montagnes et des montagnes. Rabbeinu Ha'ari a enseigné Rabbi Hamital pendant 22 mois. Deux ans moins deux mois. Ce que Rabbeinu Ha'ari a enseigné Rabbi Hamital pendant cette période-là, Rabbeinu Hamital, il oubliait tout. Kabbalah, c'est très compliqué. Il oubliait tout. Alors, il a fait boire un peu de l'eau du Be'er, du puits de Myriam. Ils sont allés en barque dans le lac Tibériade. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat que le puits de Myriam, il a roulé dans le lac Tibériade. Et Rabbeinu Ha'ari a rappelé des noms de dieux spéciaux. Tac, ils ont fait que le puits de Myriam est venu chez eux. Et il a donné à boire. Dès ce jour-là, Rabbi Hamital témoigne, il avait une mémoire phénoménale. Pendant 50 ans après, Rabbi Hamital, il a réécrit, il a rédigé ce que lui enseignait Rabbeinu Ha'ari. Et c'est des montagnes, et des montagnes, et des montagnes, et des montagnes. Et ce qui est écrit, c'est un millimètre par rapport à ce que ça signifie en plus profond. Et Rabbeinu Ha'ari est mort à l'âge de 37 ans. Il est humainement impossible qu'un être humain ait pu avoir une révélation. Et tu vois que ces choses de Kabbalah, ça marche. Ce sont des secrets. Comment il a pu savoir? Des noms de Dieu qui font des choses anormales. C'est certain que c'est pas... Et personne ne l'a enseigné ça auparavant. C'est lui, en se cassant la tête, il a tout à coup, il s'est sanctifié, il a eu un dévoilement, c'est clair qu'il y a un dévoilement de lui en avis. Maintenant, deuxième question que tu poses, c'est qui me dit que maintenant, ok, il y a un avis, mais il y a un avis, qui me dit maintenant, on a un shoot menachamaim, on a dans les rishonim, on a un livre qui s'appelle shoot responsa du ciel. C'est un rishon, je crois qu'il habitait en France d'ailleurs, qui rappelait des noms de Dieu avant d'aller dormir. Il y a des choses que je connais, des gens même qui font ça aujourd'hui, quand ils ont des questions. Tu te rappelles certains noms de Dieu, tu vas dormir, et dans la nuit, on te répond. Et il a écrit un shoot entier de responsables de tout ce qu'on lui a répondu en rêve. Est-ce qu'on considère maintenant que ces réponses-là ont un impact plus grand que celles d'un autre décisionnaire, tel que le Rashba, le Ramban, le... les poskim en parlent. Mais à pied à la fin, on dirait que c'est pas plus que cela. Et ça, c'est l'avis qui va contre le Ben Israël. C'est-à-dire, le Ben Israël, il a dit Kabbalah, mais, je ne vais pas dire à mort, ce n'est pas un beau terme, mais à fond, d'accord. Très, 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 très fort. Plus que cela. Si on peut déduire une déduction à partir d'une déduction, d'un petit mot dans Rabbeinu Ari, ça fait office de loi, la totale. Et c'est ça Ben Israël. Ben Israël, tu prends, c'est un livre de Halakha, mais il est farci, et ben, très parfumé, il est farci de Kabbalah. Et c'est vrai que ça donne un petit côté, de petit côté comme ça, pour ceux qui... C'est oriental, le monde ashkenaz, ils n'aiment pas tellement ça. Le monde oriental, ils aiment beaucoup. Et c'est un livre de Halakha qui était écrit pour le peuple. C'est un livre pour les saintes personnes du peuple, où il met la Kabbalah. Donc, on a en tout cas quelqu'un de très sérieux, le Ben Israël, d'après qui il n'y a aucun problème à faire toutes ces choses-là de Kabbalah. Le... Pardon ?
Maran aussi l'a étudié avec un ange.
Maran, c'est pas lui un avis. Attends, Rabbi Yosef Karo n'a pas tranché d'après... Rabbi Yosef Karo, il écrit dans son introduction à son livre que quand quelqu'un veut faire la race à son époque, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs avis. Lui, il va utiliser maintenant une loi de la Torah qui est... On penche d'après la majorité. C'est une loi de la Torah. La Torah dit cela. Et c'est comme ça, à l'époque du Temple, ou à l'époque où il y avait encore des batédinim, on tranchait d'après la majorité. Dans les cas, il y a beaucoup moins de cas aujourd'hui où les batédinim peuvent trancher, mais encore jusqu'à aujourd'hui où il y a des tribunaux rabbiniques, ils tranchent d'après la majorité. C'est une loi de la Torah. Et des fois, le bedin va dire, maintenant toi, tu lui dois 500 dollars, donne. Peut-être que le bedin se trompe. Et c'est du vol. Non, le bedin, la Torah a dit, tu vas prendre la majorité, et ça office de loi. Donc il a dit, moi je prends maintenant les trois plus grands poskim décisionnaires qu'il y a parmi les Rishonim, le Rambam, Maïmonide, le Roche, Rabbeinu Asher, et le Rif, Rabbi Yitzhak Elfassi. Je vais prendre la majorité. Quand je n'arrive pas avec eux, je prends trois autres après. Le Ramban, Nachmanide, le Ran, Rabbeinu Nissim, et le Rashba. Et après, on voit que notre livre amène encore quelques Rishonim, etc. Et donc, il tranche d'après la majorité. Écrit le Rabbi Yosef Bashaoul. Donc, en fait, quand le Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, il tranche pas de façon évidente, c'est clair que c'est la Halakha. Il tranche parce que la majorité va dans ce sens. C'est d'ailleurs par cela qu'on peut, résoudre certaines contradictions qu'il y a dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, des fois, tu vois, il tranche un endroit comme ça, il tranche le contraire. Je comprends pas, le même bonhomme qui a écrit son bouquin. C'est pas possible. Et le Shulchan Aruch, il n'est pas long. Shulchan Aruch, en tant que c'est un résumé du Beit Yosef, c'est un livre qui est c'est un abrégé. Comment ça se fait? C'est très clair. Dans les endroits où il est très dur de faire comme l'avis 1, et qu'il y a d'autres avis qui disent autrement, alors on peut compter sur l'avis autrement. Mais quand c'est très facile, tu peux faire comme l'avis qui est plus marmire. Je vais m'expliquer un peu mieux. Par exemple, pour Pessah. Il y a une question. Est-ce qu'on dit Choser Venior, oui ou non? Hametz à Pessah. Même une goutte de bière dans l'acte de Tibériade, tout l'acte de Tibériade devient interdit à la consommation. Une des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui à Pessah, c'est comment est-ce qu'on peut boire de l'eau pendant Pessah? Parce que si un tordu, pendant Pessah, il jette une goutte de bière dans le lac de Tibériade, vu que nous on boit, à part Jérusalem, mais la majorité du pays, on boit de l'eau du lac de Tibériade, vu que Hametz au Sermemach, ou le Hametz, il interdit même pour une petite quantité minime, il n'a pas le droit. Bon, les poskim ont déjà donné des réponses à cela. Par contre, qu'est-ce qui se passe maintenant si le mélange a eu lieu avant Pessah? Avant Pessah, le Hametz, il n'est pas interdit, il est permis. La halakha, c'est qu'il est battel, il est annulé. Il est annulé par majorité ou annulé par dans un soixantième. La question est, est-ce que quand Pessah rentre, j'ai maintenant une confiture dans laquelle j'ai mélangé, j'ai pris une petite cuillère qui avait 2-3 grains de farine, j'ai mélangé dedans, il y a de la farine dedans, Hametz. Mais c'est battel, c'est annulé dans 1 sur 10 000, d'accord? Ça c'était avant Pessah. Maintenant, quand Pessah rentre, est-ce qu'on va dire que le morceau de farine, Roser Menior, il revient, il se réveille de nouveau, coucou, je suis de nouveau là. Et pendant Pessah, même 1 sur 10 millionièmes de millionièmes, c'est interdit. Et donc la confiture est interdite. Discussion entre les poskim. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Rabbi Yosef Karo, une fois il dit permis, une fois il dit interdit. On ne comprend pas. Rabbi Yosef Karo, il dit c'est pas compliqué. La fois où il a dit interdit, c'est quoi? C'était à propos d'une chose qui se conserve, une confiture. On passe à la tariaka, c'est une sorte de plat comme ça, qui se conserve aussi après Pessah. Il dit, pourquoi t'autoriser ça maintenant, à Pessah, alors que tu peux très bien attendre quelques jours et le manger après Pessah? Vu que tu as une solution, je tranche. Vu qu'il y a des poskim, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Je tranche comme ceux qui disent plus dur, la loi plus grave. Parce que je peux te permettre maintenant, c'est pas si grave d'attendre quelques jours pour manger maintenant ton plat de confiture. Dans d'autres cas où maintenant, si on ne mange pas maintenant immédiatement, toute la nourriture va partir en cacahuète. Il y a ici une grande somme d'argent qui est mise en jeu. Il tranche comme l'avis de ceux qui sont mekilim, que ceux qui allègent, qui disent que c'est pas choser menior, que c'était annulé, c'est pas, ça ne se réveille pas. Alors je comprends pas, Rabbi Sekaro, tu tranches que ça se réveille ou ça se réveille pas? Une fois comme ça, une fois comme ça. Réponse, ça dépend des cas. Parce que moi, je ne tranche pas d'après la vérité, je tranche d'après la majorité. La majorité, on peut comprendre que des fois, c'est plus ou moins égalité, et dans ce cas, moi, je tranche. Quand tu peux faire autrement, prends en considération ceux qui interdisent. Quand tu peux faire autrement, tu feras comme ceux qui permettent.
C'est ça la vérité.
C'est juste. C'est un avis qui dit comme ça. J'entends bien ce que tu dis. C'est une vérité. C'est une vérité de la Torah. Elle est totalement vraie. Mais néanmoins, il y en a qui disent, c'est un avis, et c'est comme ça que dit le Ben Ishraï, lorsqu'il y a dévoilement direct d'en haut, schlach, c'est comme ça et pas autrement.
On a vu un peu de choix, il lui a la patte colle, elle a dit qu'il avait raison, ils l'ont mis en chaîne.
Si tu peux dire autrement, si tu peux dire autrement, en tout cas, le peuple d'Israël a accepté de prendre Rabbi Yoshua et pas Rabbi Eliezer. Le peuple d'Israël a accepté Rabbi Noari. Rabbi Noari, c'est une partie intégrante de la Torah. Quelqu'un qui aujourd'hui ne croit pas aux paroles de Rabbi Noari, s'il touche du vin, on jette le vin à la poubelle. Ça, c'est ce que dit le Ben Ishraï. Et plus que cela, il dit, même quand c'est un digdouk de digdouk, quand c'est un détail de détail de détail. Parce que Kabbalah, chez Ben Ishraï, c'est super, super important. Est venu un grand, grand, grand rabbin qui a hyper costaud et qui a osé. Et c'était très dur au début. Il a osé. Quand il était jeune, il a fait une dracha ici à Jérusalem. Il a dit, il y a une erreur dans le sidour du Ben Ishraï. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut changer maintenant. Et tous ces élèves sont allés dans tous les sidourim qu'il y avait dans la ville, qui étaient tous comme Ben Ishraï. Ils ont barré, ils ont mis tac autrement. Il y a eu un tollé des rabbins. Tous les rabbins ici, c'est Ben Ishraï. Tous les rabbins à l'époque, il y a 50 ans, c'était Ben Ishraï. Tout le produit, tout ce qu'il y avait ici en Israël, ça venait. Tous les rabbins venaient de Porat Yosef. Tous les rabbins sfaradim venaient de Porat Yosef. Porat Yosef, c'est une yeshiva qui a été construite grâce à l'argent d'un grand donateur qui habitait les Indes et qui a écrit une lettre au Ben Ishraï. Je veux faire quelque chose de grand. Je crois qu'il n'avait pas d'enfant, il faisait quelque chose de très grand. Il a dit, achète un terrain à Jérusalem en face du Kotel. On fera une yeshiva dans laquelle on étudiera la Torah normale et d'une petite chambre à côté, il y aura aussi un endroit pour la Kabbalah. Et ils ont acheté pour Atosef, Iratika. C'est une grande yeshiva qui était en face du Kotel, qui est détruite durant la guerre d'indépendance en 1948. Il y a même une photo comment elle est détruite là-bas. Et le Rosh Yeshiva, cette yeshiva, c'était le Rav Ben Sion Chazan, qui était l'élève du Ben Ishraï. Et les grands rabbinim, Sfarad, tout ce que vous connaissez, le Rav Yosef, le Rabbi Sambachou, le Rabbi Yudat Sadka, tous les grands rabbins de la région, tous ont été éduqués à Porat Yosef, sous la direction du Rabbi Sion Chazan, Rabbati, tout ça, l'école Ben Ishraï. Donc les rabbinim, c'était tout ce qu'il y avait ici. Vient ce Rav costaud extraordinaire qui dit, non, ça a fait un tollé général. Qui ce Rav? Le Rav Ovadia Yosef. Et ça fait un remue-ménage terrible. Il a une tchouva qui est écrite. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Il écrit là-bas. Il raconte des histoires, qu'il a eu des menaces et des choses terribles. Il dit, mais j'écris à... Il écrit, comment est-ce qu'on a le droit de faire la halakha, même quand on n'est pas d'accord? Il a dû écrire une tchouva comme quoi on a le droit de ne pas être d'accord. Et même, il raconte qu'une fois, le Ben Ishraï est venu en rêve, il lui a dit, pourquoi tu écris contre moi? Je me base sur des post-crimes, je dis pas n'importe quoi. Et là, il y a une nouvelle école qui s'est créée, qui va à l'encontre, qui dit, Kabbalah, c'est très bien, ça compte comme un posek normal, comme un décisionnaire normal. Rabbi Noari, il n'est pas plus que le Rajba, ou que le Ramban, ou que le Ramban. Rabbi Zanaba Shaoul, mon Rav Zeron Levracha, lui, il était médiane. Il a dit, Kabbalah, le monde Sfarad a pris sur eux, oui, de faire la Kabbalah. Mais ce qui est marqué clairement dans Rabbi Noari, le monde Sfarad a pris sur lui, comme quoi, ça vient de leur avis, on l'accepte. Mais ce qui est déduction de déduction, comme fait Ben Ishraï, ça a beaucoup moins d'importance. Parce que des fois, c'est vraiment, on voit, c'est une déduction de déduction de déduction sur un petit coutume de Rabbi Noari qu'on en déduit que. Ça sera, disons, Minat Chassidut. Pour répondre à ta question, tous les courants sont légitimes. Celui qui dit Kabbalah parce que son âme le pousse à cela, alors c'est un Shorash Neshama, une racine d'âme, Kabbalah Rabbeinu Ari, Ben Yishraï, vas-y. Quelqu'un qui, au contraire, dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas pour moi, j'ai le truc qui est carré ici sur Terre. C'est un racine d'âme. Rabbi Odia Yosef, Rabbi Yosef Karo, vas-y, il n'y a aucun problème. Et ceux qui sont médianes, eh ben, c'est un autre encore, un autre. Tout est légitime.
Si on défend la droite, des fois à gauche, on défend d'accord avec Rabbi Yosef, des fois avec Ben Yishraï, est-ce qu'on peut...
Il n'y a pas de problème à faire plus. Il n'y a pas de problème à faire plus. Il y a un problème à faire moins. Tu comprends? Si quelqu'un, il va comme Rav Odia Yosef par exemple, et de temps en temps il veut faire Ben Yishraï, il veut te marmir, faire plus, il n'y a aucun problème. Mais quand il cherche à faire la coula de l'un, après la coula de l'autre, tout ce qui est autorisé, il fait, tout ce qui est permis, il cherche toujours où c'est autorisé, c'est un problème. Quand c'est de Horaïta, quand c'est d'Arbanan, c'est permis. Ça fait que d'Arbanan est coula. Ça fait que chaque fois qu'on a un doute pour une loi d'Arbanan, on peut aller les coula, on peut prendre la vie qui est léger. Mais quand c'est de Horaïta, il faut aller le Khumra ou prendre un Rav qu'on suivra. En tout cas, aller en général prendre un cave et de temps en temps déborder en prenant, en faisant de la choumra, en faisant plus soi, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça, c'est en ce qui se concerne les lois normales. Que quelqu'un commence à se comporter comme un kabbaliste, par exemple. Le Ben Yishraï, un beau jour, il a commandé un très très beau tissu qui venait d'Inde, pour Shabbat. Arrive le tissu, magnifique. Puis tout coup, il voit, à l'intérieur du tissu, il voit un petit fil noir qui va comme ça, il l'a envoyé. D'après Kabbalah, il ne faut pas porter du noir. Et surtout pas Shabbat. Les Kabbalistes Shabbat s'habillent tout en blanc. La culotte blanche, le maillot de corps blanc, bon, c'est normal. La chemise blanche, ça va. Le pantalon blanc, les chaussures blanches, le chapeau blanc, la barbe des fois blanche aussi. D'accord? Tout blanc. Un type comme nous qui va faire ça, on le prend pour un zinzin. Pardon? Pour un mariol. Un marié en blanc pour toi, ton mariage. Ou pour un marié. Nous, on se marie en noir d'habitude aussi. D'accord. Ou pour un marié. Même dans le monde, les grands kabbalistes, en tout cas les grands poskim, les grands décisionnaires, ils font tous en noir. Rabbi Yosef Navacho, il est en noir. Rabbi Yosef, il va en noir. On va en noir. Ceux qui sont marmérés, ils vont en bleu foncé. Les super que c'est clair, ils sont connus comme étant kabbalistes, tout ça, Rav Kadouri, ou Rav Darzi, ou d'autres, etc., ils allaient en blanc Shabbat. Mais sache que tu vas en blanc, on te regarde autrement. Donc c'est pas qu'on va commencer nous aussi à faire toutes les coutumes comme Kabbalah. Tout dépend qui, quoi, comment. Sachez que toute notre... La halakha est extrêmement influencée de la Kabbalah. Pourquoi est-ce que le matin on fait Birkot HaShachar, on fait les brachot du matin? Qui, le Shulchan Aruch dit, quand tu entends le coq sonner, comment on dit, crier, d'accord, faire cocorico, tu diras, qui a donné au coq la sagesse de faire la nuance entre le matin, entre le jour et la nuit. Qui a entendu le coq dernièrement à Paris? Nous encore ici à Israël, on peut encore l'entendre. Mais à Paris, tu as entendu le coq? Tu n'as pas entendu, tu fais pour la bracha. Rabbi Noir, il vient et dit, non, on ne parle pas maintenant des coqs. Ici, on parle maintenant de notions kabbalistiques. Et ça, c'est tout à Israël. Jamais entendu qu'il va entendre le coq. Ça n'existe pas un truc pareil. Des milliers de choses qu'on fait d'après la Kabbalah. Des milliers. Oui. Je veux bien. C'était en passant. Maintenant, je reviens sur Ben Yishraï, parce que Erkodos, c'est aujourd'hui le 13 Elul, donc je continue un peu sur Ben Yishraï. En 1869, le Ben Yishraï, à dos de chameau, vient ici, en Israël. Voyage d'Irak en Israël. Les accompagnateurs disent, durant toute la route, il ne fait que parler des paroles de Torah. Il viendra à Jérusalem, il ira à Hebron, et il ira après à Tzfat. Et après de Tzfat, quand on sort de Tzfat, la sortie au nord, la sortie en haut de Tzfat, il y a une rue qui monte comme ça. Il y a une qui va à droite vers Rosh Ha'Ain, une qui va à gauche vers Meron, une qui monte vers en haut, s'appelle Avnit. Après environ 100-200 mètres, sur la gauche, il y a aujourd'hui une tombe, ils ont fait une grande maison, c'est tout nouveau, à l'époque ça n'existe pas, mais qu'une petite tombe de rien du tout, je me souviens il y a 20-30 ans, celle de Benayahu Ben Yehoyada. Benayahu Ben Yehoyada, c'était le chef de l'armée de David, et il était aussi le chef du Sanhedrin. Et là-bas, le Ben Yishraï a un Gilui Shrina, un dévoilement de lumière divine énorme. Benayahu Ben Yehoyada, dans le bouquin de Kabbalah, c'est marqué que on peut aller, c'est une grande mitzvah d'aller l'ishtater, d'aller pèleriner sur les tombes, on se pose carrément sur la tombe, et on réunit notre âme avec l'âme du défunt. Il faut rappeler quelques noms de Dieu, etc., en pensée, mais ça marche qu'avec les défunts qui sont de même racine d'âme que nous. Chacun de nous, il y a des sortes de groupes ou de grappes d'âmes qui ont toujours un tzaddik dedans. Et nous, on a toujours un tzaddik décédé duquel on fait partie de son groupe. Il y a un tzaddik qui est passe-partout. Qui c'est? Benayahu Ben Yehoyada. Et le Ben Israël est allé là-bas, et c'est à pèleriner la tombe, et il a reçu une lumière divine énorme, un point tel qu'il a décidé que tous ces livres qu'il écrirait, il appellerait au nom de Benayo Ben Yehuda. Benayo Ben Yehuda, c'est marqué dans la Bible, à son propos c'est marqué Benayo Ben Yehuda, Ben Ishai, Mikab Tziel, Rav Pe'alim, il y a beaucoup d'adjectifs. Tous les noms des livres du Ben Ishai, il y en a beaucoup, sont tous appelés au nom de ce grand tzaddik. Ben Ishai, il y a Ben Ishai et Ben Ishail, parce qu'il y a un créectif, deux façons d'écrire et de prononcer. Il y a Benayahu, il y a Ben Yehuda, ce sont deux livres de Drachot sur la Gadot, sur les légendes du Talmud. Ben Ishai, le livre qu'on connaît. Il y a Ode Sefraï, c'est pas sur le Ben Ishai, c'est vrai, c'est un autre nom qui a été rajouté, etc. Tous les noms, Rav Pe'alim, tous les noms, enfin la grosse majorité de ce livre ont été appelés au nom de Benayo Ben Yehuda. Et je ne sais pas. Si j'étais kabbaliste, je te l'aurais dit. D'accord ? Je ne suis pas kabbaliste. On a eu Ben Ishai que lui, il a écrit un livre d'introduction à la Kabbalah. Où il écrit là-bas que quelqu'un, pour pouvoir enseigner la Kabbalah, il doit être capable de pouvoir savoir, il dit quelques petites pages qu'il faut expliquer, certaines pages d'écrit de Rabbi Noir et qui, il semblerait, sont complètement incompréhensibles, et être capable de pouvoir déterminer où se trouve son âme dans le grand bâtiment. Je pense que lui était capable de le faire, de savoir d'où lui venait, peut-être où certaines personnes venaient, mais nous on ne sait absolument pas, et si ces choses sont cachées, c'est bien qu'elles restent cachées. Un beau jour est venu à Bagdad un certain Obermeier qui venait d'Allemagne ou d'Autriche, envoyé par l'Alliance universelle. L'Alliance universelle, c'était les écoles qui voulaient, soi-disant, civiliser les juifs primitifs. Mais en civilisant, on voulait ôter toute foi en Dieu. Et il a écrit un article dans le journal contre le Ben Ishai, qui raconte des histoires, tatatatata. Le même jour, la communauté a fait un kherem, une excommunication contre lui. Lui, comme il faisait toujours, c'est connu, il faisait une place excuse envers le rabbin, etc. Mais la même semaine, il a reçu un télégraphe que sa femme est décédée et qu'il devait rentrer d'urgence dans son pays. Et comme ça, fut terminé pendant quelques bonnes années. L'Alliance n'a pas pu rentrer en Irak. Plus tard, elle est rentrée et elle a fait beaucoup, beaucoup de grands dégâts. Le gris, à Gaon, Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, un des plus grands rabbins ashkénazes du dernier siècle, un des plus grands. On lui a demandé, c'était lui, non c'est son père, Reb Chaim de Brisk. Reb Chaim de Brisk. Ses élèves l'ont demandé, il y a des élèves du Reb Chaim qui devaient partir en guerre, à l'armée, pour la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale en 1914. Ils vont dire à Rav Chaim Soloveitchik, dans notre sac de combat, on n'a pas beaucoup de place. Au niveau de bouquins Torah, on ne peut pas prendre. On ne peut prendre qu'un seul bouquin, lequel on prend. Mishnayot, Torah, chasse, une massacrette de chasse. Le Rav Chaim leur a dit, vous prenez Ben Ishai. Ben Ishai, c'est un rabbin sfarad avec un turban sur la tête d'Irak. Prenez ce livre. Effectivement, le Ben Ishai, pour ceux qui vont savoir un peu lire l'hébreu, c'est un roman. C'est un bouquin de halakha, c'est un abrégé de halakha. Le bouquin abrégé de halakha, c'est extrêmement rébarbatif, c'est sec. C'est passionnant. C'est un bouquin, je ne sais pas, il y a une sorte de reine, de charme dans ce livre-là. Tu le lis, c'est passionnant. Le Ben Ishai est décédé en 1909. Il y a une histoire assez extraordinaire à propos de son décès. Son élève, le rabbi Son Chazan, comme j'ai dit auparavant, il était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, on tape à sa porte, au milieu de la nuit une fois. Il ouvre la porte et il y a des gens qui rentrent. On est le Chavra Kadisha, donc les pompes funèbres. On vient de Bagdad, on vient d'enterrer maintenant le Ben Ishai, ici à Jérusalem. Quoi ? Ben Ishai est décédé ? Où vous l'avez enterré ? Ils lui montrent. Et pour venir vers moi, la famille nous a dit de venir vers vous, que vous allez nous payer tous les frais d'ensevelissement. Bon, combien ça coûte ? Il leur paye. Il ne comprend pas cette histoire-là. Le lendemain matin, il se lève, personne au courant de rien. Tout au milieu de la journée, on apprend, le temps que c'est arrivé à l'époque de Bagdad, que le Ben Ishai est décédé cette nuit. Donc, il semblerait que, de façon assez magique, le corps du Ben Ishai a été transporté et a été enterré ici à Yerushalayim. Actuellement, il y a encore la tombe, Il y a deux tombes de Ben Yishraï, en fait. Il y a la tombe de Ben Yishraï à Bagdad, où il a été enterré de façon matérielle, en tout cas. Les obsèques étaient extrêmement, extrêmement glorieux. Cette tombe, d'ailleurs, jusqu'en 1962, existait. En 1962, Saddam Hussein a voulu construire là-bas un bâtiment. Ils l'ont déplacé, elle était inconnue, et on dit dernièrement que les Américains ont retrouvé la tombe du Ben Yishraï. Et il y a une tombe aussi, une autre tombe, donc deux tombes, ici à Yerushalayim, l'endroit que le Chevra Kadisha, donc les pompes funèbres, ont montré au Rabbi Tzvi Chazan l'endroit où il est enterré. Que son mérite nous protège. Amen, Kenei Ratzon.